Nous célébrons, comme vous le savez maintenant, le fait que Jésus soit ressuscité. Et on pourrait se poser la question, est-ce que la résurrection était une surprise? Et dans un sens, oui, surtout pour les apôtres, ceux qui étaient le plus proches de Jésus-Christ lui-même, ont été surpris par la résurrection de Jésus-Christ. Mais quand nous considérons la vie de Jésus-Christ lui-même, nous voyons, en lisant attentivement les évangiles, que la résurrection n'a pas été une surprise pour lui, qu'en fait, il a vécu toute sa vie dans l'anticipation de sa propre résurrection. Et c'est ce que nous allons considérer aujourd'hui, vivre sa vie dans l'anticipation de sa propre résurrection. Parce que, dans un premier lieu, c'est ce que Jésus a fait, c'est ce que nous allons surtout considérer ce matin. Mais comme application, et on peut penser à cela tout au long du message, c'est ce que Jésus nous demande de faire aussi, de vivre à la lumière de notre propre résurrection. Et donc, nous voulons voir dans les évangiles comment Jésus a vécu sa vie dans cette anticipation. Alors, il y a beaucoup de monde dans ce monde qui vivent un peu pour aujourd'hui. Ils vivent pour les plaisirs d'aujourd'hui. Ils pensent même pas souvent à l'année prochaine ou l'année d'après. Ils vivent un peu pour l'instant. Et j'ai entendu cette semaine parler de Thucydide. Thucydide est un homme politique, un historien athénien. Il est né vers 465 ans avant Jésus-Christ. Donc, ça date maintenant depuis plus de 2500 ans. Et il nous donne un récit de la peste qui a eu lieu à Athènes dans les années 431, à peu près avant Jésus-Christ. Et il dit qu'il y avait, quand la peste est venue dans la ville, il y avait une perte des habitudes morales. Il a dit la société était bouleversée dans ses fondements même. Il parlait des gens qui tombaient dans l'égoïsme, des gens qui étaient peut-être charitables au début, mais tombaient dans l'égoïsme et refusaient d'aider leurs voisins par crainte de tomber malades eux-mêmes. Toutes les visites qu'on rendait en famille disparaissaient. Chacun, il dit, essaye de s'isoler. Alors, nous sommes maintenant 2500 ans plus tard, mais l'être humain demeure à peu près pareil. J'ai lu le témoignage d'une patiente en Chine qui a dit qu'on lui a mis dans une chambre à l'hôpital et on refusait même d'entrer pour l'aider. Elle était là, laissée toute seule. Et quelqu'un qui travaille en première ligne ici en France m'a dit qu'elle a des collègues qui refusent de travailler parmi les malades du Covid-19. L'humain demeure à peu près pareil. Mais écoutez ce que Thucydide dit de ses compatriotes d'Athènes lorsque la ville a été frappée par la peste. Il dit ceci, j'ai trouvé cela frappant. Chacun se livre à une poursuite du plaisir avec une audace qu'il cachait auparavant. Alors vous voyez, la peste est venue et ça fait que chacun se livrait à la poursuite du plaisir avec une audace qu'il cachait auparavant. Le péché de l'homme ressortait dans ces moments difficiles. Il y a beaucoup de gens qui vivent leur vie pour le présent et ayant peur de mourir, ils veulent profiter autant que possible de la vie telle qu'elle est. Il y a d'autres qui disent qu'il faut penser au jour de sa mort. Ce sont des sages qui disent « pensez au jour de sa mort en vivant notre vie d'aujourd'hui. » Mais il y a ceux qui regardent encore plus loin que la mort. Comme Moïse, en Hébreux 11, verset 26, la Bible nous dit qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération, quelque chose qui allait venir après même la mort. Moïse lui-même a dit, en parlant du Messie, je cite Deutéronome 18, verset 15, « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Alors, Jésus, pardon, était certainement comme Moïse dans ce sens. Il avait les yeux fixés sur la rémunération. Et je veux considérer ensemble le fait que Jésus vivait sa vie dans l'anticipation donc de sa propre résurrection. Alors, je n'ai pas de PowerPoint aujourd'hui, mais j'ai des PowerPages. OK? Et Jocelyn aussi va mettre ça en tant que commentaire. Et la première chose que je veux considérer, c'est que Jésus présuppose sa résurrection dans ses enseignements. Jésus présuppose sa propre résurrection dans ses enseignements. Et je veux voir deux exemples de cela. Donc, si vous avez vos Bibles, trouvez Jean chapitre 6, hein, s'il vous plaît. Et ce qui sous-tend toutes les prédications de Jésus est le fait qu'il allait, et qu'il savait qu'il allait lui-même mourir et être ressuscité. Jean 6, verset 37, Jésus est en train de parler. Jean 6, verset 37, et il dit, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perds aucun de tout ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Il y a donc une résurrection des croyants dont Jésus parle ici. Regardez le verset 43, Jean 6, 43. Jésus leur répondit, « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Alors nous savons que pour être ressuscité, il faut quoi? Il faut d'abord mourir. Mais Jésus lui-même va-t-il simplement vivre éternellement sans mourir? Regardez ce qu'il dit au verset 51, Jean 6, 51. « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Jésus dit bien ici que le pain est sa chair qu'il donne pour la vie du monde. Sachant que le verbe donner est un futur indicatif ici, on peut se poser la question, mais quand est-ce qu'il va donner sa chair pour la vie du monde? Combien de fois est-ce qu'il va la donner? Quand est-ce que cela va se passer? Et notez ce mot donner, c'est le même verbe que Jésus utilise quand il parle à la femme samaritaine au chapitre 4. Où Jésus promet de lui donner de l'eau vive. Ici, il donne du pain. L'eau vive donne la vie éternelle, le pain donne la vie éternelle. Dans les deux cas, c'est une image de lui-même. Mais il dit ici qu'il va donner sa chair. Et donc, celui qui a après soit l'eau vive, soit le pain qui représente Jésus aura la vie. Il résume cet enseignement en 1 Jean 5, 12 quand il dit « Celui qui a le Fils a la vie ». Mais ce que nous voulons noter aujourd'hui, c'est que dans le même discours, il dit qu'il va donner sa chair pour la vie du monde, une référence à sa mort. Puis il parle du fait qu'il va ressusciter ceux qui croient en lui. Donc Jésus présuppose que lui-même va mourir et donc ressusciter afin de ressusciter les autres. Je vous donne encore un autre exemple. Ça, c'était Jean 6. Trouvez Jean 12, s'il vous plaît. Jean chapitre 12, le verset 23. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être, quoi? Glorifié. » Jean 12, 23. Il parle de sa glorification. Mais que faut-il faire pour qu'il soit glorifié? Est-ce qu'il va partir de cette vie terrestre et être tout de suite glorifié dans le ciel? Regardez le verset suivant, verset 24, Jean 12, 24. « En vérité, je vous le dis, Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Vous voyez, il parle de sa glorification et il dit, mais le grain doit tomber dans le sol et mourir. C'est l'heure pour le grain de blé d'être glorifié. Alors, que faut-il pour qu'un grain de blé puisse être glorifié en portant beaucoup de fruits? Il faut qu'on mette ce grain de blé dans la terre, qu'il meure, et c'est ainsi qu'il va pousser et porter du fruit. Et Jésus se compare à ce grain de blé. Il dit, pour être glorifié, il faut que je meure. Et si vous n'êtes pas convaincu, regardez un peu plus tard au verset 32, dans le même discours, Jean 12, 32, qu'est-ce qu'il dit? Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Élevé de la terre, ça veut dire quoi? Le verset suivant, 33. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Vous voyez, il présuppose une mort et puis une résurrection. Quand j'aurai été élevé de la terre, eh bien, je vais attirer tous les hommes vers moi. Donc, il y aura une vie qui suit aussi sa mort. Et la foule comprend qu'il parle de sa mort. Mais elle reste quand même confuse. Regardez le verset 34. La foule lui répondit, « Nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. » Vous voyez leur dilemme? Ils n'ont pas de place pour une mort et une résurrection. Ils ont une place pour le Messie qui vit éternellement, mais ils ne voient pas la mort et la résurrection comme Jésus le voit. Et donc ils disent, « Comment donc dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé ? Qui est ce Fils de l'homme ?» Alors Jésus ne voit pas donc sa vie prolongée éternellement, sans mort et résurrection, mais il ne voit pas sa mort sans voir aussi sa résurrection. Tout cela pour démontrer que Jésus présuppose sa propre résurrection dans tous ses enseignements. Et on pourrait trouver d'autres illustrations. Mais j'avance pour montrer aussi que Jésus promet sa résurrection à la foule de façon figurée. Jésus promet sa résurrection à la foule de façon figurée. C'est plus que suggéré, c'est même promis. Jésus parle deux fois de façon figurée, un peu comme un énigme pour préparer les esprits bien disposés, sans aveugler ceux qui s'endurcissaient. Et il donne deux signes. Le premier signe, c'est le signe du temple réédifié. Et le deuxième signe, c'est le signe de Jonas. Alors, trouvons ensemble Jean chapitre 2. On va regarder le premier et puis je vais simplement vous lire le deuxième. Mais Jean chapitre 2, et je veux remarquer un détail au verset 12. Est-ce que vous pouvez noter, même les enfants, Jean 2, verset 12, nous parle de la Pâque des Juifs. Hein? Parce que les Juifs avaient la Pâque, c'était le jour où ils pensaient à l'exode d'Égypte. Et Jean 2, verset 12 dit, « La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. » En fait, nous obtenons notre information sur la durée du ministère de Jésus-Christ dans l'évangile de Jean, parce qu'il regroupe tout son récit, tout son évangile, autour de six fêtes juives. Et il mentionne ici la première Pâque. Il y aura une deuxième, puis une troisième. Donc, nous sommes tout au début de son ministère public. Et il commence, comme il va terminer son ministère, en purifiant le temple. Regardez ce qu'il fait, verset 14. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons, des changeurs assis, ayant fait un fouet avec les cordes, il les chassa tous deux du temple, ainsi que les brebis et les bœufs, et dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. On nous dit que juste dans les échanges et les ventes qui se faisaient dans le temple, les sacrificateurs, en fait, remportaient probablement des centaines de milliers d'euros par an. Jésus renverse tout ça. Ça va revenir et à la fin de son ministère, il va faire de même. Mais notez ce qu'il dit au verset 18, Jean 2, 18. Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. Et les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras? Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Quelle est la parole que Jésus avait dite? Après 3 jours, je relèverai ce temple qui est mon corps. Et il a dit cela, rappelez-vous, tout au début de son ministère. Tout au début, il a promis sa résurrection. Jésus inaugure donc son ministère en faisant appel à sa propre résurrection. Et le deuxième signe que Jésus donne, c'est en Jonas, enfin c'est pas en Jonas, mais c'est de Jonas, et c'est en Matthieu chapitre 12. Je vous lis ces versets. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions voir un miracle. Encore se demande pour un miracle. Dans les deux occurrences, c'est un miracle que Jésus leur promet en leur parlant de sa résurrection. Et il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Donc Jésus présuppose sa propre résurrection dans tous ses enseignements. Jésus promet sa résurrection de cette façon figurée à la foule. Et troisièmement, nous allons voir où Jésus devient très explicite en fait. Jésus prédit sa résurrection à ses disciples de façon explicite. Et là, je vous encourage, même dans votre Bible, à marquer ces 3 références pour que vous puissiez les retrouver. Si vous trouvez en Matthieu chapitre 16, verset 21, nous allons voir 3 références en Matthieu où Jésus, de façon explicite, prédit sa propre résurrection à ses disciples. Matthieu 16, verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Et si vous notez, il dit, dès lors, Jésus commença à faire connaître. Cela suggère qu'il n'a pas dit simplement une seule fois. C'est quelque chose qu'il a répété, qu'il a répété, qu'il a répété explicitement à ses disciples. Alors, si à côté de Matthieu 16, 21, là où il dit qu'il sera ressuscité le 3e jour, vous mettez chapitre 17, les versets 22 et 23. Chapitre 17, les versets 22 et 23. Et puis, je vous invite à peut-être tourner la page pour trouver cette référence. Matthieu 16, 21, et puis Matthieu 17, 22 et 23. Regardez-le. Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit, « Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir, et le 3e jour, il ressuscitera. » Ils furent profondément attristé. Vous voyez, il leur dit encore, le 3e jour, il ressuscitera. Ils ne comprennent pas, ils en sont dans la tristesse. Mais Jésus leur dit de façon explicite, il prédit sa propre résurrection. Et puis à côté de Matthieu 10, verset 23, vous pouvez mettre le chapitre 20, verset 17 à 19. Donc on a Matthieu 16, 21, Matthieu 17, 22 à 23, et puis Matthieu 20, 17 à 19. Regardez-le. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples et il leur dit en chemin, « Voici, nous montons à Jérusalem, Et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, verset 19, et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verges et le crucifient. Et le troisième jour, il ressuscitera. Jésus donc présuppose sa propre résurrection dans tous ses enseignements. Il promet sa résurrection à la foule de façon figurée. Et Jésus prie même sa résurrection à ses disciples de façon explicite. Nous voyons que Jésus vivait à la lumière de la résurrection. Mais quatrième, j'aimerais dire ceci. Jésus perçoit constamment sa résurrection dans son esprit. Alors le verbe percevoir veut dire, selon le dictionnaire, saisir, prendre connaissance par le sens. Percevoir une couleur, une odeur, un son, etc. Et j'aime bien ce mot, pas seulement parce qu'il commence avec P comme les autres, mais parce qu'on voit que c'est quelque chose de plus qu'une simple croyance. Oh, Jésus croit, oui, je sais que je vais être un jour ressuscité. C'est comme il peut le sentir, c'est comme la Bible va dire, il peut le voir. Il peut l'entrevoir en tout cas. Hébreux 12 et le verset 2, on vous met ce verset en commentaire. Hébreux 12, verset 2, nous parle et dit, « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Écoutez encore ceci, « En vue de la joie qui lui était réservée. » Ça, c'est la bonne traduction. Il y a des traductions qui disent « malgré », mais c'est « en vue de ». Le Derby dit « à cause de la joie qui était devant lui a enduré la croix ». La Semeur dit « parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il avait enduré la mort sur la croix ». Il a enduré la mort sur la croix. Parce qu'il avait en vue la joie. Vous voyez, il percevait la joie qui lui était réservée. C'est comme s'il le voyait dans son esprit même. Et il y a des indices de cela dans les évangiles. Je vais vous donner juste quelques-uns. Par exemple, Luc chapitre 9, verset 51. Luc chapitre 9, verset 51. Écoutez cette parole de Dieu. « Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. » Alors, c'est juste avant sa mort. Mais notez ce qui est mis en premier plan ici. Ce n'est pas sa crucifixion, c'est son ascension. Il dit, lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha. Ça nous indique que Jésus regardait plus loin que la crucifixion jusqu'au moment où il allait être enlevé. Hein, c'était sa vision des choses. Bien sûr, il faut qu'il soit crucifié, mais pour lui, ce qu'il attendait, c'était l'heure où il serait enlevé pour retourner auprès de son Père. Un autre que je trouve très frappant, en le comparant à Hébreux 12, verset 2, est en Jean chapitre 13, verset 1. Il dit, écoutez, Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour s'en aller auprès du Père. Jésus, verset 3, savait que le Père avait tout remis entre ses mains et qu'il était venu d'auprès de Dieu et qu'il allait retourner auprès de lui. Voilà, il va maintenant laver les pieds de ses disciples. Mais le contexte est placé pour nous par l'apôtre Jean. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde et de s'en aller auprès du Père. C'est ce qu'il savait, c'est ce qu'il méditait dans sa tête. Verset 3, il savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu d'auprès de Dieu et qu'il allait retourner aussi auprès de Dieu. Il savait ces choses, il méditait ces choses en lavant les pieds de ses disciples, en allant à la croix. Il voyait, il percevait déjà la gloire qui était devant lui. Ce thème revient à plusieurs reprises en Jean, où Jean parle du fait que il va aller auprès du Père. Si vous lisez Jean 13, Jean 14, il va aller auprès du Père, il va préparer une place, etc. Et Jean 15 aussi, Jean 17 aussi, il parle du fait, Jésus parle souvent du fait qu'il va aller auprès du Père. C'est ça, c'est sur ça qu'il méditait avant sa mort. Nous pouvons aussi voir Luc chapitre 22, les versets 15 et 16. Luc 22, versets 15 et 16, où Jésus dit « J'ai vivement désiré de célébrer ce repas pascal avec vous avant de souffrir. En effet, je vous le déclare, jamais plus je ne mangerai jusqu'au jour où tout ce que cette Pâque signifie soit réalisé dans le royaume de Dieu. » Vous voyez, il dit « Je vais souffrir, mais un jour viendra où nous allons de nouveau célébrer ces choses dans le royaume de Dieu. » Le Seigneur sait ce qu'il dit et il se réjouit dans son esprit. Il voit clairement, distinctement devant lui ce à quoi il se réfère. Nous voyons par le moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais même ça nous donne et nous remplit de joie, n'est-ce pas? Mais Jésus voyait clairement qu'un jour il serait dans le royaume des cieux avec ses disciples. Quelqu'un a dit la Pâque de l'Ancien Testament, après sa transformation en scène, n'a toujours pas connu son accomplissement final. Elle pointe, il parle de la Sainte Cène, elle pointe prophétiquement vers quelque chose de plus lointain et même plus grand et plus glorieux. Une fête des réconciliés et des rachetés est encore à venir, avec laquelle notre communion actuelle n'a en proportion que celle de la copie par rapport à l'original, ou celle de l'avant-goût par rapport à la pleine jouissance. Quelque chose de nouveau prendra alors sa place dans notre communion actuelle. Et Jésus même, en instaurant la scène, il dit, moi je ne serai pas là pour le faire avec vous, vous allez le faire en mémoire de moi, moi je ne serai pas là pour le faire avec vous jusqu'au jour où nous le ferons ensemble dans le royaume de Dieu. Même donc, en instituant la Sainte Cène, Jésus lui-même avait ce regard vers l'avenir. Et il y a un lien avec notre célébration de la Cène que malheureusement nous ne pouvons pas célébrer puisque nous ne sommes pas ensemble. Mais 1 Corinthiens 11, verset 26 dit « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur. » Quels sont les prochains mots ? Jusqu'à ce qu'il vienne. Et même notre participation à la scène a ce regard vers l'avenir que Jésus avait depuis le début. Il perçoit, il voit. Jésus vivait sa vie comme cela. Et un dernier passage que j'aimerais regarder ensemble, c'est en Luc chapitre 22. Est-ce que vous pouvez trouver, pas Luc, pardon, Actes chapitre 2, verset 22. Je me suis trompé là-dessus. Actes chapitre 2 et le verset 22. Actes 2, 22. Ici, nous avons la prédication de Pierre. Vous allez voir qu'il parle très clairement de la résurrection de Jésus. Mais restez avec moi et vous allez noter qu'il va citer un psaume. Ce sera le psaume 16 qui parle donc de la résurrection de Jésus. Alors, acte 2, à partir du verset 22, « Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a fait témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. » Et verset 24, « Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David dit de lui. » Et maintenant, il cite le psaume 16, c'est au verset 25, acte 2, 25. « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, ma langue est dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton saint voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me remplis de joie par ta présence. Tout ça, c'est la citation du psaume 16. Et puis, Pierre reprend, verset 22, « Homme, frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est de quoi, verset 31 ? C'est de la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est de Jésus que Dieu a ressuscité, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. » Mais c'est donc les versets 25 à 28 qui sont la citation du psaume 16, qui parle donc de la résurrection de Jésus-Christ. Mais notez ceci, c'est un détail que vous n'avez peut-être pas vu avant et qui rend ce passage très glorieux, je crois, pour le croyant. Il parle à la première personne, c'est-à-dire, pour les enfants, il ne dit pas « tu », ça c'est la deuxième personne, ou « il », ça serait la troisième personne, mais il dit « je ». C'est une prophétie, mais c'est dans la première personne. Ça veut dire que c'est le Messie qui parle. Nous lisons prophétiquement les pensées, les paroles du Messie lui-même. Donc, revenons à cette citation avec cela en tête. Regardez verset 25, acte 2, 25. Car David dit de lui, verset 25, « je ». Et le « je » c'est qui ? Le « je » c'est qui ? Le « je » c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Que dit Jésus-Christ ? Verset 25. « Je voyais constamment le Seigneur devant moi. » Écoutez ce qui est dit de Moïse en Hébreux 11, verset 27. « C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. » Moïse se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Et que nous dit le psaume de Jésus ? Je voyais constamment le Seigneur devant moi. Il voyait celui qui était invisible, parce qu'il est, c'est encore les mots de Jésus, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Verset 26, encore Jésus qui parle. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. Ma langue dans l'allégresse, mon cœur dans la joie. Que dit Hébreux 12, verset 2 ? Il avait en vue la joie qui était devant lui. C'est à cause de la joie qui était devant lui qu'il a souffert la croix et méprisé l'ignominie. Ici, verset 26, « Mon cœur est dans la joie, ma langue est dans l'allégresse, et même ma chair, » vous voyez, il parle de sa propre chair, « même ma chair reposera avec espérance. » Et c'est sa référence à sa mort, mais il dit, « ma chair va reposer dans l'espérance. » En pensant à son corps qui va être pris par d'autres, descendu de la croix par d'autres et mis quelque part dans un tombeau par d'autres, il sait que ma chair, il le dit à lui-même pendant sa vie terrestre, ma chair reposera avec espérance. Espérance vient donc de cette réalisation, cet espoir avec lequel il est mort. Luc 23, verset 46 nous dit que Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit dans tes mains, entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Et acte 2, 26, citant le psaume 16, nous dit qu'il était en fait rempli d'espérance. Mais pas seulement pour son esprit, mais même pour son corps. Verset 27. Car, voici ce que dit le Messie, tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton saint voie la corruption. Vous voyez, c'est le Messie qui parle avant le fait. Tu ne permettras pas. C'est une prophétie de la confiance qu'allait avoir le Messie par rapport à sa propre résurrection. Verset 28. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. En vue de la joie qui lui était réservée. Il dit, tu me rempliras de joie par ta présence, même si mon corps est mis dans un tombeau. Vous voyez, Jésus percevait constamment sa propre résurrection dans son esprit. Il avait cette espérance que son Père n'allait pas abandonner son esprit et n'allait pas abandonner même son corps, que son corps lui-même n'allait pas voir de corruption. C'est pour ça qu'il peut dire avec confiance, dans trois jours plus tard, le Fils de l'homme sera ressuscité. Jésus vivait sa propre vie dans l'anticipation de sa propre résurrection. Il n'y a pas d'autre explication à la vie de Jésus qu'une conviction profonde qu'il allait être ressuscité. Qui d'autre peut aller à la mort? C'est comme si, sinon il verrait la fin. Il laisse 12, 11 maintenant, parce que l'un a déjà trahi, 11 disciples qui l'abandonnent. Il laisse tout, il est dénudé sur la croix et il meurt en espérance. Quelle foi il avait dans son Père. Donc Jésus présuppose sa résurrection dans tous ses enseignements. Jésus promet sa résurrection de façon figurée. Jésus prédit sa résurrection de façon explicite. Et Jésus percevait constamment sa propre résurrection dans son esprit et dans son cœur. Alors nous avons parlé principalement de Jésus. Mais l'application que nous devons faire est évidente, je crois. Nous devons faire la même chose. Nous devons vivre dans l'anticipation de notre résurrection. Écoutez ce que la Bible nous dit en Romains 8, verset 11. « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Voyez ce que dit Romains 8, verset 11. C'est incroyable. « Vous avez en vous » dans votre corps, parce que notre corps est devenu un temple du Saint-Esprit si nous sommes en Christ. Et il dit, vous avez en vous le même esprit qui a ressuscité Jésus et son corps, qui habitait le corps de Jésus. Le même esprit habite en vous. Et si cet esprit qui habitait le corps de Jésus l'a ressuscité, sûrement il va ressusciter votre corps. Il ne va pas faire d'un corps son temple et puis l'abandonner pour toujours. Nous serons nous-mêmes ressuscités. Et donc, il faut vivre à la lumière de cela. Nous devons vivre en voyant l'invisible, ayant les yeux fixés sur la rémunération. Jésus nous apprend cela. Par exemple, dans le serment sur la montagne, Matthieu 5, verset 11, il dit « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. » Et on se dit « Mais pourquoi ?» Je vais souffrir, je vais même peut-être mourir. Oui, vous allez peut-être mourir. Parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Vous voyez, il nous pointe vers l'avenir, après la mort. Votre vie, si vraiment vous avez une vie chrétienne, votre vie n'aura pas de sens si elle termine à la tombe. On ne pourra pas regarder votre vie le jour de votre mort et dire, voilà, c'est logique. Je comprends pourquoi il a vécu sa vie. Non, en fait, pour le chrétien, on ne comprend pas si on n'ajoute pas la résurrection qui vient après. Je reviens à Romains 8 et je vous lis le verset 18. Romains 8, verset 18. Voici l'estimation d'un vrai chrétien qui a les yeux fixés sur la rémunération. C'est l'estimation de Paul. Il dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Il n'y a pas de comparaison, il dit. Moi, j'estime actuellement que ce qui vient est tellement plus grand que les souffrances d'aujourd'hui. Et Colossiens chapitre 3 nous dit que quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous aussi, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Mes amis, notre résurrection est garantie. De même que tu meurs en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Tous ceux qui sont en Christ revivront. Et Jésus nous appelle donc dès aujourd'hui à vivre dans l'anticipation de notre propre résurrection. Ça change la donne. Ça change la donne. On peut faire la vaisselle tard le soir, en train de se dire, mais pourquoi je suis là dans la cuisine en train de faire cela? Et puis, on peut réfléchir au fait qu'il y a une résurrection. Qu'il y a une résurrection. Et tout ce qui est fait pour le Seigneur, même une petite corvée à la maison, il le voit et il va nous donner des récompenses. Nous serons un jour devant lui. Nous devons donc vivre à la lumière de la résurrection. Vous savez, mes amis, chacun de vous, chacun de nous, allons vivre quelque part pendant l'éternité. Et la Bible promet une sorte de résurrection à tout le monde. Mais pour ceux qui rejettent le Christ, la résurrection donnera lieu à une seconde mort. Et ils vivront éternellement, mais séparés de Dieu dans cette deuxième mort. Vous n'allez pas pouvoir éliminer votre existence. Vous allez exister de façon consciente pendant toute l'éternité. La question qu'il faut se poser donc, sommes-nous prêts? La résurrection de Jésus-Christ est vraiment le fondement du christianisme. Ce n'était pas une doctrine inventée par ceux qui ont vu leur maître mourir et voulaient continuer un peu la fête. Non, la résurrection de Jésus était quelque chose que lui-même enseignait et que lui-même espérait pendant toute sa vie. Et maintenant, il nous dit à vous, puisque moi je vis, vous vivrez aussi. On ne sait pas quand on sortira de ce confinement, mais nous avons un bel avenir. Nous avons un futur promis pour nous, une vie éternelle auprès de Jésus-Christ. Et nous pouvons anticiper et vivre, pas pour ce monde et les désirs de ce monde, mais pour Jésus-Christ, ayant les yeux donc fixés sur notre résurrection, car Jésus lui-même est déjà ressuscité et il est les prémices de tous ceux qui sont morts. Prions le Seigneur. Ô Dieu notre Père, nous te remercions pour la réalité de la résurrection, comme pour la réalité de la mort de Jésus-Christ. Et que nous avons un Sauveur qui a réellement connu la mort, réellement connu cette séparation spirituelle de son Père, qui a réellement porté sur lui nos péchés jusqu'à la croix, qui a réellement été obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, mais qui n'est pas resté dans la tombe, et qui est aujourd'hui vivant et vivra aujourd'hui. Et nous croyons que Jésus-Christ est mort, bien plus qu'il est ressuscité, et qu'il est auprès de toi. Et nous croyons donc que nous qui sommes en Christ, nous serons un jour aussi ressuscités, si pas enlevés, pour être auprès du Seigneur. Et nous prions que tu aies pitié sur ceux et celles qui ne sont pas en Christ, qui demeurent aujourd'hui même sous le jugement de Dieu, que tu les sauves dans ta grâce. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen.